Radio Django, La Rose des Vents.
À 18h21, c'est l'heure de notre chronique presse-papier, la revue de presse des migrants de Yves sur Radio Django. Bonsoir Yves.
Bonsoir Fabien.
Alors quoi de neuf dans l'actualité de la migration ?
Eh bien Fabien, cette semaine j'aimerais tirer mon chapeau à l'inventivité de l'administration suisse en charge des étrangers. Elle réussit toujours à dénicher un concept, une idée originale pour barrer la route aux migrants et développer une politique de dissuasion.
Bon Yves, la Suisse est pourtant réputée pour sa tradition humanitaire.
Oui, c'est bien vrai Fabien, mais effectivement pendant plus d'un siècle, la Suisse a su se monter très ouverte et accueillante pour tous les riches étrangers qui venaient planquer leurs sous dans les coffres helvétiques, à l'abri du secret bancaire, ou s'établir à Gstaad, ou acheter une somptueuse villa à Savigny ou à Coligny. À l'occasion, quand il a fallu accueillir en 1956 des Hongrois, puis en 1968 des Tchèques fuyant la répression de Moscou, les autorités ont été accueillantes en effet.
Ouais, je sens à ton ton ironique que cette ouverture a connu des limites.
Oui, quand il a fallu accueillir des réfugiés de gauche chiliens fuyant la dictature de Pinochet après le coup d'État de 1973, l'État suisse ne les a pas acceptés, ne les a acceptés justement qu'au compte-gouttes et en partie forcés par la mobilisation populaire. La Suisse a ensuite durci toujours davantage ses lois sur l'asile, transformant une politique d'accueil en politique de dissuasion. Et c'est là que le génie helvétique de la bureaucratie me laisse pantois.
Pantois, tu veux dire sans voix ?
Oui. Presque sans voix. Mais devant poursuivre cette chronique, je ne peux rester, bien sûr, sans voix.
On préfère.
Mais il est vrai que cette ingéniosité bureaucratique a quelque chose de fascinant. La Suisse s'était distinguée par son inventivité avec la création du tampon J. C'était en octobre 1938. Les flux de réfugiés, principalement juifs, fuyant le Reich vers la Suisse et d'autres pays, s'amplifient considérablement. Dans le secret des coulisses de la diplomatie, Berne négocie avec Berlin la position du tampon J sur les passeports des Allemands de confession juive. Ainsi, les services frontaliers suisses pourront facilement distinguer les individus allemands non juifs des individus allemands juifs. Et ce, sans risquer de froisser le Troisième Reich en imposant un visa.
Avec des formes plus subtiles, j'imagine que cette politique de dissuasion s'est poursuivie.
Oui, en effet, dans les années 60 et 70, pour être sûr que les Italiens repartent après être venus construire nos routes, nos maisons et nos barrages, la Suisse invente le statut de saisonniers parqués dans des baraquements. Et quand la Suisse ne trouve plus assez d'Italiens et d'Espagnols, elle fait venir des Yougoslaves. Et quand la Yougoslavie éclate dans les années 90 et que la guerre des Balkans fait apparaître les Kosovars et les Bosniaques, le Conseil fédéral invente en 1991 le modèle des trois cercles. Pour éviter les installations définitives, Berne décide alors de reléguer les ressortissants yougoslaves dans le troisième cercle. Les nouveaux arrivants peuvent demander l'asile, mais n'ont plus le droit de travailler. Difficile d'obtenir un visa pour venir travailler, pour venir chercher l'asile en Suisse auprès d'une administration serbe ou croate qui vous fait la guerre.
Alors, je sens que la mécanique bureaucratique s'est alors croisée.
C'est plutôt corsé.
Corsé, oui.
Elle s'est croisée, je ne sais pas. Ouais, mais c'est corsé, en effet. Pour être sûr que ces demandeurs d'asile kosovars, qui malgré tout avaient réussi à arriver en Suisse, repartent aussitôt que la guerre est finie, l'administration invente l'admission provisoire. Malin. L'avantage est clair, la levée du statut ne doit plus être notifiée à chaque individu concerné. Il suffira d'une seule décision du gouvernement pour qu'automatiquement la procédure de renvoi soit entamée à l'égard de l'ensemble des personnes admises à titre collectif. Il n'y a pas non plus de voie de recours contre cette décision de levée. Et hop, tous les Kosovars, les Bosniaques rentrent chez eux après la guerre. Ou presque. Parfois, il y a tout de même des mouvements contestataires, comme En quatre ans, on prend racine, et le collectif de soutien aux 523 qui mettent du sable dans cette belle mécanique huilée du renvoi.
Et plus récemment, comment cette inventivité s'est-elle manifestée ?
Eh bien, nous devons aux Danois de pouvoir réparer un injuste oubli. Oui, hormis quelques défenseurs du droit d'asile, bien peu de monde en Suisse s'était rendu compte que l'administration organisait depuis 20 ans une confiscation préventive sur les migrants. Si vous êtes migrant, que vous possédez plus de 1 000 francs à votre arrivée au centre d'enregistrement, vous devez abandonner ces valeurs financières contre un reçu.
Une taxe spéciale, en quelque sorte.
Oui, exactement. Une taxe spéciale pour faire participer les requérants, dans la mesure du possible, aux coûts qu'ils engendrent, aide sociale notamment. Et si vous êtes en procédure d'asile ou au bénéfice d'une admission provisoire, vous devrez continuer ensuite de verser 10% de vos revenus jusqu'à un montant de 15 000 francs.
Ah oui, mais bon, c'est tout à fait scandaleux, ça.
Oui, mais c'est tellement scandaleux que... Quand le Danemark a envisagé la même mesure, donc tout récemment, pour dissuader les réfugiés, le tollé a été vraiment énorme en Europe. La Suisse a dû préciser dans un communiqué que ce n'était pas si grave, puisque chez nous, ça fait 20 ans que nous pratiquons cette mesure, sans que ça fasse trop de vagues et que ça empêche les partis nationalistes de dire que les réfugiés dépensent, la Suisse doit trop dépenser pour l'aide sociale des migrants.
L'Union européenne n'est pas en reste en matière de dissuasion d'asile, j'imagine.
Et oui, il faut bien reconnaître que d'autres administrations bénéficient aussi de fonctionnaires zélés et imaginatifs qui ne manquent pas d'ingéniosité pour trouver des mécanismes toujours plus sophistiqués.
Et quel est le dernier en date, Yves ?
Bon, dernier en date, disons qu'il n'est pas tout à fait nouveau, mais il a été remis au goût du jour avec la vague de réfugiés syriens. C'est le concept d'externalisation. La revue de défense du droit d'asile, Vivre Ensemble, a consacré son numéro de décembre à cette question. Externaliser, c'est déléguer aux pays en périphérie de l'Europe la tâche de contenir les migrants, compte de l'argent et des programmes d'aide. Avant le printemps arabe, la machine était bien rodée. Depuis 2004, l'Europe a mis en place l'externalisation de l'asile. Des camps de détention ont été ouverts en Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, en Mauritanie, en Ukraine, en Albanie, en Libye avec Kadhafi.
Et puis, le printemps arabe est arrivé.
Et Bachar a massacré sa population et Daesh a survécu et les déplacements de population dans la région et vers l'Europe ont repris de l'ampleur. En novembre, au sommet de La Valette, vous n'y étiez pas sans doute, et ça n'a pas fait la une des journaux, les pays européens africains ont reparlé externalisation. Les migrants peuvent donc se retrouver à la case départ du pays qu'ils avaient fui sans avoir pu présenter leur demande d'asile. Malin. La Serbie et la Turquie sont particulièrement sollicitées en ce moment. La Turquie accueille déjà 2,2 millions de réfugiés syriens. Contre une aide de plus de 3 milliards, l'Europe espère une barrière étanche à l'Est. En échange, on parle de reprendre les discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'Europe, d'accélérer le processus de libéralisation des visas pour les citoyens turcs. Les Kurdes, eux, pourraient bien être les sacrifiés de cette politique machiavélique. L'Europe reste plus que prudente et silencieuse, d'ailleurs, sur les exactions commises depuis décembre en Turquie contre les Kurdes par un Erdogan qui a promis de nettoyer les villes et d'éradiquer le PKK.
Et puis Yves, avant de nous quitter, tu voulais rendre hommage à une photographe, Leila Alaoui.
Oui, blessée par balle dans l'attaque terroriste de Ouagadougou, la photographe franco-marocaine Leila Alaoui est malheureusement décédée le lundi 18 janvier au Burkina Faso. Le corps des femmes, leurs droits, transparaissaient dans son travail. Et c'est bien pour cette sensibilité que le siège d'Amnesty International à Londres l'avait choisi pour un travail de sensibilisation afin d'enrayer les mariages forcés au Burkina Faso. Leila Alaoui avait été envoyée à Ouagadougou par l'ONG pour une campagne intitulée « Mon cœur, mes droits ».« Mon corps, mes droits ». C'est triste de voir la connerie humaine nous priver d'une aussi belle personne et de son talent. La migration était au cœur du travail de cette magnifique artiste.
Eh bien voilà, une touche un petit peu plus triste, mais un bel hommage. Merci beaucoup Yves pour ce presse-papier de l'actualité de la presse de la migration. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Django.
À bientôt Fabien.
Et puis cette chronique est à retrouver en intégralité sur notre site www.django.fm.